Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce dimanche 5 juin. Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner et au cours de cette émission, le journal, les sports et le personnage de la semaine. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et d'abord, les grands titres de ce dimanche 5 juin. Les travaillistes reprochent au gouvernement de Morrison d'avoir refusé d'agir plus tôt sur la crise énergétique. Un avion de chasse chinois a intercepté un avion militaire australien en mai dans l'espace international au-dessus de la mer de la Chine méridionale. Le Premier ministre australien se rendra en Indonésie ce dimanche après-midi pour la réunion annuelle des dirigeants avec le président Joko Widodo à Jakarta. Anthony Albanese sera accompagné de la ministre des Affaires étrangères Penny Wong, du ministre du Commerce Don Farrell, du ministre de l'Industrie Ed Yusich et de Luke Gosling, le député de Salomon, l'électorat du territoire du Nord. Ils seront rejoints lors de la visite par une délégation australienne de chef d'entreprise Anthony Albanese se déclare que l'Indonésie est un partenaire vital pour l'Australie.
They will grow to be the fourth largest economy in the world in growing decades. It's an important economic relationship, but it's an also important people-to-people relationship, and I look forward to renewing my friendship with President Widodo. We spoke yesterday on the phone about the importance of building on the economic and social relationship between Australia and Indonesia.
Le ministre du Changement climatique et de l'énergie, Chris Bowen, blâme les difficultés du marché australien de l'énergie au manque d'investissement du gouvernement Morrison dans les énergies renouvelables. L'opérateur australien du marché de l'énergie a activé la garantie d'approvisionnement en gaz qui verra l'industrie du gaz travailler avec le régulateur pour garantir que la demande de gaz puisse être satisfaite. Mais le gouvernement fédéral a exclu le plan pour limiter la hausse des prix de l'énergie, affirmant qu'il n'était pas conçu pour plafonner les prix et ne serait pas mis en vigueur avant son activation prévue en janvier prochain. S'adressant sur Sky News, Chris Bowen a fait cette déclaration.
Their 9 years of denial and delay has ill-prepared our country for this crisis. I'm not blaming them for flooding and coal mines or for the Ukrainian situation or for coal supply issues. What I am blaming them for very clearly is a lack of a coherent policy framework. Renewable energy is the cheapest form of energy, storage and transmission. With more storage and transmission, we would have been very well placed to deal with this crisis. But because of previous governments' stop-start 23 energy policies and lack of embracing the technologies of the future, our country is ill prepared.
Le Parti national a refusé de s'engager à soutenir toute tentative d'introduire une voix autochtone au Parlement, alors que le gouvernement s'efforce de concrétiser sa promesse électorale sur la déclaration d'Uluru. Le chef des Nationals, David Littleproud, a déclaré au programme Insiders sur l'ABC que son parti ne pouvait pas s'engager tant qu'il n'avait pas vu les détails de ce à quoi cette voix autochtone pourrait ressembler. David Littleproud hésite à adopter ce qu'il appelle des gestes symboliques alors qu'il y a, je cite, tant d'améliorations pratiques à apporter à la vie des communautés aborigènes.
Ultimately, I get the symbolism of it, and that's important. But also what's important is that we do shift that dial and closing the gap. We haven't seen any detail. And I think what needs to be demonstrated here, the opportunity for the government to demonstrate to all sides of the political spectrum, is what does it look like in shifting the dial?
Le gouvernement fédéral a révélé qu'un avion militaire australien avait été intercepté par un avion de chasse chinois en mai dernier. Dans un communiqué publié hier, le ministère de la Défense a déclaré que le gouvernement avait fait part de ses inquiétudes au sujet de l'incident aux responsables chinois. Le ministère de la Défense affirme qu'un avion de surveillance maritime RAF P8 a été intercepté le 26 mai par un avion chinois alors que l'avion australien se trouvait dans l'espace aérien international au-dessus de la région de la mer de Chine méridionale. Le ministère de la Défense affirme que l'interception a entraîné une manœuvre dangereuse qui a constitué une menace pour la sécurité de l'avion australien et de son équipage. Il indique également que l'Australie a entrepris des activités de surveillance maritime dans la région pendant des décennies et le fait conformément au droit international. Le gouvernement de Tasmanie a déclaré qu'il allait introduire des lois interdisant l'affichage de symboles nazis à l'instar d'efforts similaires dans d'autres États du pays. La Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland ont annoncé leur intention d'interdire des symboles tels que la croix gammée, tandis que le Victoria a présenté une loi au Parlement de l'État. La procureure générale de Tasmanie, Elise Archer, a déclaré qu'elle travaillerait avec des groupes communautaires pour rédiger les lois, tout en examinant les changements qui ont été proposés ailleurs. Elle déclare que le gouvernement condamne fermement l'utilisation de tels symboles pour générer la haine et la peur. Le fils de la reine Elizabeth et héritier du trône britannique s'est adressé à un concert en direct organisé en l'honneur des 70 ans de règne de la reine dans le cadre des célébrations du jubilé de la reine. Le concert devant le palais de Buckingham a présenté des artistes tels que Queen, Adam Lambert, la chanteuse d'opéra Andrea Bocelli et Diana Ross. La reine Elizabeth a fait une apparition surprise en vidéo préenregistrée aux côtés d'un autre trésor national britannique, le Paddington Bear. Le prince Charles a rendu un hommage sincère, disant à la reine qu'elle avait été une fidèle servante de la nation et mère de famille.
You have met us and talked with us. You laugh and cry with us. And most importantly, you have been there for us for these 70 years. You pledged to serve your whole life. You continue to deliver. That is why we are here.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'église principale de Sviatoherzk, l'un des sites chrétiens orthodoxes les plus sacrés du pays, avait pris feu à cause des bombardements russes. La nouvelle de la destruction d'une partie du monastère survient alors que les forces russes intensifient leurs attaques dans la région contestée de Donetsk. Des officiers militaires russes et ukrainiens se sont blâmés pour les dégâts au monastère. Volodymyr Zelensky affirme que 3 moines de Lavra ont été tués par des bombardements russes dans la région.
Вони готові спалювати все, православні церкви, так само, як і будь-що інше в Україні. За час повномасштабної війни російськими обстрілами вже зруйновано або пошкоджено 113 церков. Серед них є і старовинні. Старовинні, що пережили Другу світову війну, але не вистояли російську.
Le nombre de morts d'un déraillement de train dans le sud de l'Allemagne est passé à 5 après que les secouristes ont trouvé un autre corps sous les décombres. 44 autres personnes ont été blessées dans l'incident qui a eu lieu dans la région des Alpes bavaroises vendredi dernier. Après plusieurs tentatives infructueuses, des grues ont réussi à hisser au moins un wagon du train qui a déraillé. Le chef adjoint de la police régionale, Frank Helwig, a déclaré que les opérations de sauvetage se poursuivaient.
We can say this much, that of the 4 confirmed fatalities, 4 are female. As for the 5th, I cannot make any statement at the moment. Among the injured are probably also young victims because the train was on its way home after school yesterday. But I can't give you any more details on that at the moment.
Et puis, je rappelle que les législatives en France, avec le vote déjà ouvert pour les Français de l'étranger, certains ont voté en avance par Internet. On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 18 degrés. Adélaïde, 13. Melbourne, 12. Hobart, 12. Canberra, 12. Wollongong, 18. Sydney, 18. Brisbane, 21. Cairns, 29. Darwin, 31. Et à Alice Springs, maximal de 20 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 5 juin. Les travaillistes reprochent au gouvernement Morrison d'avoir refusé d'agir plus tôt sur la crise énergétique. Et puis un avion de chasse chinois a intercepté un avion militaire australien dans l'espace international au-dessus de la mer de Chine méridionale en mai dernier. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le tennis à Roland-Garros, la finale des dames remportée hier soir par Iga Swiatek, la polonaise, contre Coco Gauff, l'américaine, en deux manches. On écoute d'abord Iga Swiatek après sa victoire à Roland-Garros.
With everything that was going on, I'm also like more aware of how it is to win a Grand Slam and what it takes and how every puzzle has to, you know, come together and basically every aspect of the game has to work, and with that awareness I was even more happy and even more proud of myself, because in 2020 it was all I just felt that I'm lucky, you know, and this time I felt like I really did the work.
Deuxième sacre en Grand Chelem pour la Polonaise et 35e victoire d'affilée depuis le 7 février dernier. Olivier Pron, Radio France Internationale.
Ouais, souriante, intelligente, bienveillante, Iga Swiatek, mais sans pitié. Hein. Une fois le court foulé, à 21 ans, elle a des coups millimétrés, deux titres du Grand Chelem en poche. Maintenant, une place de numéro 1 mondial solidement ancrée et donc en plus désormais 6 titres remportés cette année. 35 victoires de rang sur le circuit, on n'avait pas fait mieux depuis Venus Williams il y a déjà plus de 20 ans, rendez-vous compte. Bref, de quoi épater l'ex-joueuse française Marie Pierce, la lauréate ici en l'an 2000, est au micro d'Éric Mamrut.
De voir Iga qui n'a pas perdu un match depuis le mois de février, là ça fait sa 35e victoire de suite, c'est vraiment très impressionnant ce qu'elle arrive à faire, pas seulement physiquement, de pouvoir tenir cette intensité tout au long d'une quinzaine de grands chelems, aussi mentalement de garder cette concentration, cette intensité. Voilà, c'est très impressionnant comment elle est au-dessus de toutes les autres filles en ce moment sur le circuit. Elle a un jeu extrêmement agressif, extrêmement puissant, elle prend la balle très tôt. Elle met beaucoup de pression sur ses adversaires et puis ils n'ont pas de solution pour le moment. Donc ouais, elle m'a beaucoup impressionnée.
On cherchait une patronne pour le tennis féminin. Là, on l'a, selon vous ?
Bah, pour le moment, oui. On voit qu'il n'y a personne d'autre qui arrive à trouver des solutions contre elle. Iga, elle a l'air d'être quelqu'un de humble, de simple, les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Elle travaille avec une préparatrice mentale. Donc voilà, je pense qu'on peut compter sur elle.
Marie Pierce, impitoyable sur un court donc, consciente aussi, Iga Swiatek, du monde qui l'entoure. et pas du genre à ne pas dire ce qu'elle pense. Hein. Après les embrassades avec son clan, l'étonnement de découvrir qu'avec son clan, il y avait, figurez-vous, Robert Lewandowski, l'attaquant du Bayern Munich, son compatriote. Elle a ensuite rendu hommage à Coco Gauff, qu'elle retrouvera, n'en pas douter, dans de nombreuses finales à venir. Iga Swiatek, eh bien, ensuite, elle a eu cette phrase préparée en conscience, hein, comme en témoigne le petit drapeau jaune et bleu sur sa casquette depuis 15 jours. Ukraine reste forte, le monde est toujours là. Elle aussi devrait être toujours là pendant quelques années.
Et ce soir, ne ratez pas la finale des messieurs entre Nadal, l'Espagnol, et Ruud, le Norvégien. On passe au foot, la Ligue des champions, avec la Hongrie qui s'est imposée contre l'Angleterre 1-0. L'Italie et l'Allemagne ont fait match nul, 1-1. La victoire de l'Arménie contre l'Irlande 1-0. La Finlande et la Bosnie ont fait match nul, 1-1. Victoire du Monténégro contre la Roumanie 2-0. Victoire également du Luxembourg contre la Lituanie 2-0. La Turquie s'est imposée contre les îles Féroé 4-0. Vendredi, je rappelle que les Bleus étaient battus par les Danois 2-1. Antoine Grenier pour RFI revient surtout sur la performance de Karim Benzema qui a marqué pour les Bleus à la 51e minute.
Et pourtant, il avait idéalement lancé les Bleus. Intenable, 13 en jambes, un des seuls tricolores à son niveau. Karim Benzema aura assuré le spectacle buteur à la 51e minute. Le Madrilène s'était mis sur son 31 pour atteindre les 37. 37e réalisation en bleu, en éliminant trois adversaires au passage dans la surface. De quoi lui donner le sourire malgré la défaite.
C'est un beau but, j'aurais aimé la victoire, c'est toujours mieux, mais bon, on va se concentrer pour le prochain match.
Benzema contre le Danemark, c'est aussi un but refusé pour hors-jeu, juste après un festival sur 40 mètres dans le camp danois. L'attaquant du Real était dans son jardin, titré champion d'Europe 6 jours plus tôt dans ce même stade. Le Madrilène se serait bien vu vainqueur, à nouveau. Mais le doublé de l'ancien Bordelais Andreas Cornelius a contrarié ses plans. Et pour Benzema, les Danois ont parfaitement profité des faiblesses françaises. En l'occurrence, l'état de forme des protégés de Guy Stéphane.
Tous les joueurs, de toute façon, on sort d'une grande saison. On a tous fait beaucoup, beaucoup de matchs. On sait que c'est des matchs importants, mais on est des êtres humains. Et voilà, il faut récupérer. Mais je pense que c'est plus un travail mental. Par exemple... Moi, c'est sûr que j'ai fait une grosse saison, il y a eu beaucoup de matchs, mais j'essaie de travailler mentalement parce que il faut encore et il reste 3 matchs maintenant. Donc il faut bien prendre soin du corps.
La fatigue, une explication qui ne doit pas servir d'excuse, avertit toutefois Hugo Lloris, le gardien tricolore.
C'est le cas pour toutes les nations engagées. En face, on a vu une équipe bien organisée qui a eu des jambes jusqu'au bout du match. De notre côté, encore une fois, il y a eu des bonnes choses, hein. Malheureusement, c'est difficile de les mettre en valeur lorsqu'on perd un match.
Et puis les qualifications pour la CAN de 2023, c'est bien parti pour le Sénégal, comme nous l'explique Martin Guèze pour RFI.
Honneur au Sénégal, honneur à Sadio Mané. Le chef de meute des Lions sénégalais a mené les siens face à leur proie du soir, à savoir les écureuils béninois. Le Sénégal qui est traîné pour la première fois son tout nouveau maillot estampillé champion d'Afrique, Sadio Mané. Acte 1 à la 11e minute, un pénalty en force. Sadio Mané, acte 2 à la 22e, un raid solitaire et une conclusion en deux temps. Sadio Mané, acte 3, un nouveau pénalty à l'heure de jeu alors qu'il avait fait expulser le Béninois Almeida quelques instants avant. Triplé pour Mané, son premier en sélection et 32e chapitre d'une pièce à rallonge et à succès. 32e but en 80 sélections pour le Sadio Mané qui devient donc le meilleur buteur de l'histoire de cette sélection sénégalaise devant un certain Henri Camara, vous ne l'avez pas oublié, j'en suis sûr, Thomas de Saint-Léger, le héros de la Coupe du Monde 2002. 3-1 score final pour le Sénégal face au Bénin après la réduction de l'écart de Junior Olaïta. les joueurs de l'UCC qui sont bien lancés vers la CAN 2023.
L'autre performance du soir, c'est celle qui se dessine pour l'instant pour le Gabon en RDC.
Ah oui, retardé à Barcelone, les Panthères du Gabon qui ont eu du retard à l'allumage et au décollage. Seule une partie de l'équipe est arrivée à Kinshasa et avec plusieurs heures de retard. 14 joueurs de champ seulement ont pu rejoindre le stade des Martyrs, mais ce sont bien les joueurs de Patrice Neveu, absent lui aussi ce soir, qui ont ouvert le score par Xavi Babika. Toujours 1-0 pour ces Panthères décimées. À la 70e minute, elles sont bien parties elles aussi.
Un mot de cyclisme pour vous dire que le critérium du Dauphiné, c'est ce soir. Pour la première étape, le favori, c'est le Slovène Primož Roglič. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. h 25 sur les ondes de SBS French, avec les célébrations du jubilé de la reine d'Angleterre. Grégory Pless de notre programme a parlé à Romain Fati de Flinders University sur la question « Est-ce que les Australiens souhaitent couper les ponts avec le Royaume-Uni ?»
Le nouveau gouvernement albanisé compte dans ses rangs un Assistant Minister for the Republic, donc un monsieur censé, enfin, chargé de travailler sur la transformation de l'Australie en république autonome, dont le chef de l'État n'est pas une nonagénaire vivant à 17 000 km du pays. Ça a été reçu, d'après ce que j'ai lu dans la presse, moyennement, parce qu'il y a un courant monarchiste en Australie, là-dessus, sur cette volonté apparente d'Anthony Albanese de se détourner de la reine d'Angleterre et de devenir un pays véritablement indépendant. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, encore une fois, il reprend un flambeau qui est cher au parti travailliste. Ça fait vraiment partie de leur ADN, de façon générale, dans l'histoire australienne au XXe siècle. Le parti travailliste est plutôt... s'inscrit plutôt dans une indépendance par rapport à la couronne. Donc, juste pour qu'on soit très clair, le chef de l'État en Australie, c'est la reine Elisabeth II, qui est représentée par le gouverneur général, qui a la plupart des droits dans la constitution australienne. Et donc, l'Australie est une démocratie, mais est une monarchie constitutionnelle. Depuis assez longtemps, vous avez ce débat, est-ce que nous ne devrions pas devenir totalement indépendants de la Grande-Bretagne ? Alors légalement, ils le sont. Les Australiens ne peuvent pas faire appel à des cours de droit britanniques depuis la fin des années 90, donc quand même assez tard. Mais est-ce que nous allons prendre le pas supplémentaire et devenir une république ? Devenir complètement autonome et ne plus avoir la reine Elisabeth II comme chef de l'État de l'Australie, ne plus la retrouver sur la monnaie, que la police n'agisse plus en a Majesty's Service, etc., etc. Donc, on est de l'ordre du symbolique, mais on est aussi de l'ordre du constitutionnel. Dans les années 90, vous avez eu un mouvement radical, porté surtout par le Premier ministre de l'époque, Paul Keating, travailliste, vers la République. Et ce dernier a réussi à ce qu'il y ait une convention organisée pour proposer un référendum. Seulement voilà, entre le moment où la convention pour le référendum est organisée et le moment où elle est décidée, M. Paul Keating perd les élections et M. John Howard, un libéral, est élu au pouvoir en 96 et le référendum se tient en 99. À l'époque, la plupart des Australiens soutiennent l'idée de république. Vraiment, les années 90 sont des années de croissance pour l'Australie, il y a une régénérescence de la fierté nationale, et ils se disent, voilà, on n'a plus besoin d'être chaperonné par la Grande-Bretagne, on peut devenir une république. La majorité des Australiens soutenaient le mouvement républicain, mais les questions qui ont été posées au référendum étaient formulées d'une telle manière qu'elles n'étaient pas claires, et ceci a été fait de façon totalement volontaire par le gouvernement Howard à l'époque. John Howard est un monarchiste convaincu, hein, vraiment, c'est la vieille Australie, blanche, monarchiste, protestante, et donc il a un peu piégé sa population, entre guillemets. Par ailleurs, le modèle de république qui a été proposé aux Australiens n'était pas celui qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire que vous aviez des Australiens qui disaient « bon, on veut un modèle présidentiel, hein, un peu comme la France », et d'autres disaient « non, 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 on veut un modèle parlementaire, comme l'Allemagne ou l'Italie, où finalement le président, la présidente sert à inaugurer les chrysanthèmes, comme on l'aurait dit en France ». Donc il y avait une division sur quel modèle constitutionnel choisir pour la République suivante. Le référendum a échoué, la monarchie a été monarchie constitutionnelle a été maintenue. John Howard s'est évertué à faire venir la reine, à la faire circuler autour de l'Australie. Et depuis, bien sûr, avec William et la naissance de ses enfants, la couronne britannique s'est évertuée à une propagande culturelle intense avec des voyages réguliers de têtes couronnées, que ce soit le prince Charles, qui n'est pas très populaire ici, mais surtout ses enfants, ses petits-enfants. Ce qui fait que voilà, la monarchie et la couronne a vraiment bien travaillé sur son image. Et aujourd'hui, vous avez une certaine partie de la population australienne qui aime suivre leurs histoires dans les tabloïds, etc. Ce qui fait que le débat républicain a été un peu chassé du tableau. Il est revenu avec le Premier ministre Malcolm Turnbull, un libéral, mais qui était dans ses jeunes années le chef du mouvement républicain australien, qui est une organisation qui existe encore aujourd'hui et qui commande chaque année des sondages pour sonder l'opinion, pour savoir si les Australiens sont en faveur ou pas de la République. Or, quand Malcolm Turnbull est arrivé au gouvernement et qu'il était Premier ministre, il avait un gouvernement avec une très légère majorité, ce qui ne le lui a pas permis de relancer ce débat républicain. Donc, tout le monde s'attendait en se disant « Ah là là, Malcolm Turnbull est à la manœuvre ». L'idée de république va revenir, et pas du tout. Et là, c'est intéressant que le Labour, qui vient d'être élu il y a quelques semaines, se repenche sur cette question. Comme j'ai dit, c'est à la fois dans leur ADN, mais c'est aussi une question qui devient bipartisane, parce que ça s'inscrit au-delà des combats de classe, au-delà des combats économiques, au-delà des combats idéologiques. Quand vous avez une majorité de la population qui soutient une idée, c'est tout dans votre intérêt que de mener ce débat. Donc, je ne dis pas que c'est calculé, hein. Il y a un réel intérêt pour le Labour de faire progresser cette idée républicaine, mais on n'est très clairement pas dans les années 90. Il y a encore énormément de travail pour faire revenir cette idée au goût du jour.
Je note que cet aspect popularité de la famille royale est toujours très important, essentiel même, puisque ce fameux ministre chargé de la République qui fait partie du gouvernement Albanese expliquait dans un article paru hier, me semble-t-il, qu'en gros, enfin, ils n'étaient pas non plus ultra pressés et qu'ils allaient notamment attendre que la reine Elisabeth, très très populaire, décède et que le prince Charles prenne la relève, qui est beaucoup moins populaire, pour peut-être essayer d'actionner cette idée.
Oui, et il faut toujours bien choisir son moment, hein, avec ce type de changement majeur. Si vous n'avez pas de soutien populaire et que vous vous présentez trop tôt sur un référendum, non seulement vous cassez la pipe, mais en plus, cette idée sera fourvoyée pendant 10, 15, 20 ans. Là, on est dans un contexte où l'idée républicaine n'est pas aussi prévalente en Australie qu'elle ne l'était dans les années 90. Le Labour aura encore beaucoup de travail et donc, de façon très pragmatique, ils ne vont pas aller à contre-courant de la population, d'autant plus que la reine Elisabeth allait attaquer une grand-mère, c'est pas une arrière-grand-mère d'ailleurs, ça ne vous donnerait pas bonne presse. Elle n'est pas tant populaire qu'elle est un signe d'une certaine vision de l'Australie idéalisée par certains, c'est-à-dire protestante, hein, puisque Elisabeth est la chef de l'Église anglicane, une Australie blanche, une Australie d'un autre temps. Hein, et ça parle quand même à une certaine partie de l'électorat australien dont vous n'avez aucun intérêt à, comment dirais-je, aller contre leur opinion. Quand la reine Elisabeth décédera, et alors là, ça c'est la grande question, dans un an, dans cinq ans, dans quinze ans, on n'en sait rien. Hein, sa mère a vécu très très âgée quand même. Donc au moment où elle décédera, effectivement, si le prince Charles devient roi, il n'a pas d'autre option sauf à abdiquer, la question se posera. Le vrai souci de certains travaillistes, c'est de se dire, oh là 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 là, si elle vit encore 10 ans, il se peut que son fils décède ou devienne grabataire avant elle, et que la couronne revienne à William, qui lui jouit d'une très grande popularité du fait de sa femme, Kate, et de ses enfants. Donc, il y aura une fenêtre de tir si et seulement si le prince Charles devient roi.
Okay.
À ce moment-là, effectivement, les Australiens se poseront la question.
Alors, si je comprends bien, d'après ces sondages effectivement qui paraissent annuellement, les Australiens sont majoritairement favorables à ce que leur pays devienne une république. Ce qui coince, c'est quelle forme de régime on adopterait après ça. Est-ce qu'on a donc un président qui a beaucoup de pouvoir, comme par exemple en France aux États-Unis, ou au contraire qui est juste un titre presque uniquement honorifique, comme vous le disiez, en Allemagne, en Italie, etc., etc. Est-ce que là-dessus, on a des données? Est-ce qu'on sait ce à quoi les Australiens seraient le plus favorables? Un président à la française ou un président honorifique type régime parlementaire, quoi.
Très clairement, régime parlementaire. C'est-à-dire que la notion d'un régime présidentiel ou présidentialiste, c'est un épouvantail pour la République en Australie. Les Australiens sont plus dans le consensus, dans le régime parlementaire. Un régime parlementaire qui est beaucoup plus simple, puisque c'est un système de Westminster où, grosso modo, vous avez un parti au pouvoir et une opposition. Et les petits partis sont vraiment des tout petits partis. On n'est pas dans des jeux de coalition comme le parlementarisme, par exemple, belge ou italien, ou celui de la France, de la Troisième et de la Quatrième République. Non, non, eux, ce qu'ils veulent, c'est garder le système parlementaire tel qu'il est, et un président serait probablement nommé plus qu'élu. C'est-à-dire que le président serait choisi, un peu comme le premier mandat de Charles de Gaulle en France, hein, de la Ve République, où il a été élu au suffrage universel seulement pour son deuxième mandat. Et donc se pose la question de qui est-ce qui choisit le ou la présidente. Est-ce que ce sont les représentants du Parlement, chambre haute et chambre basse, donc Sénat et Assemblée? Est-ce que ce serait une nouvelle section du corps électoral? Voilà. Mais dans tous les cas, si l'Australie passe vers une république, je pense que je ne m'engage pas trop en disant que le modèle qui sera préféré, ce sera un modèle où le ou la présidente aura un rôle de représentation honorifique. Le problème, c'est comment est-ce que cela va se traduire dans la Constitution. Et là, on touche à quelque chose d'extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que la Constitution australienne telle qu'elle est aujourd'hui, elle est très courte. Et elle ne parle quasiment pas du Premier ministre. Le Premier ministre n'est que le premier des ministres. La personne qui a le plus de pouvoir dans la Constitution australienne aujourd'hui, c'est le gouverneur général. Le gouverneur général est le chef des armées. Le gouverneur général décide de quand les élections seront tenues. Le gouverneur général a le pouvoir de renvoyer le gouvernement, de dissoudre les assemblées. Enfin, c'est des pouvoirs qui sont très, 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 très au-delà de ce que même le président français ou américain a. Seulement, en pratique, le gouverneur général ou la gouverneure générale d'Australie ne les utilise pas, sauf pendant la crise constitutionnelle de 1975. Donc, si vous avez un président qui est nommé ou une présidente, est-ce que ce dernier ou cette dernière aura les mêmes prérogatives que le gouverneur général? Là, ça va être très compliqué.
Très bien. Bon, ben merci encore une fois, Romain Fati, pour toutes vos explications. À très bientôt.
À très bientôt, je vous remercie.
Et bientôt 38 minutes sur les ondes de Radio SBS. Et dans quelques secondes, on passe à la rubrique hebdomadaire personnages de la semaine et le focus sur Sheryl Sandberg.
Nous revenons à présent, et comme chaque dimanche, sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour nous en parler aujourd'hui, nous sommes avec Léo Roussel. Bonjour Léo.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un départ qui fait grand bruit dans le monde de la tech et dans la célèbre Silicon Valley aux États-Unis.
Mercredi, la numéro 2 du géant Facebook, Sheryl Sandberg, a annoncé sa démission. Elle était la directrice des opérations du groupe renommé Meta en fin d'année 2021. Alors, si son départ fait autant de bruit, c'est parce que le groupe spécialisé dans les réseaux sociaux ne serait sans doute pas ce qu'il est aujourd'hui sans Sheryl Sandberg. Aujourd'hui âgée de 52 ans, elle était arrivée en 2008 aux côtés du créateur du réseau social, Mark Zuckerberg, et elle a largement contribué au succès de l'entreprise en structurant divers points stratégiques comme les activités marketing ou publicitaires du réseau social. Après 14 ans passés chez Facebook, Sheryl Sandberg a donc décidé de passer la main pour se concentrer sur d'autres occupations.
Qu'est-ce qui avait amené Sheryl Sandberg du côté du géant Facebook ?
Alors, Sheryl Sandberg intègre Facebook, on l'a dit, en 2008. À l'époque, le réseau social fondé par le désormais milliardaire Mark Zuckerberg est en plein essor, mais manque cruellement d'une structure. Le patron de Facebook est un novice en question de gestion d'entreprise et il a besoin de quelqu'un d'expérimenté pour l'épauler. Alors, comme il l'a expliqué dans un post publié sur le réseau social ce jeudi, pour remercier sa plus fidèle collaboratrice au sein de l'entreprise, il était âgé de seulement 23 ans en 2008 et, je cite, « ne connaissait presque rien sur la manière de gérer une entreprise. Nous avions construit un très beau produit, le site de Facebook, mais nous n'avions pas encore une activité rentable et nous avions des difficultés à passer de la petite start-up à une vraie organisation. » Fin de citation.
Mais Léo, pourquoi le choix de numéro 2 s'est-il porté sur Sheryl Sandberg ?
Eh bien, à l'époque, Sheryl Sandberg, c'est déjà un nom bien connu de la Silicon Valley. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'avant de rejoindre la bande de Mark Zuckerberg et de faire de Facebook un véritable mastodonte, Sheryl Sandberg travaillait chez un autre géant, Google, comme vice-présidente chargée des ventes à l'international et des opérations. Elle dispose aussi d'un CV et d'un carnet d'adresses riches qui vont permettre à Facebook de franchir un cap, car avant d'atterrir chez Google, celle qui est née à Washington et qui est diplômée de la prestigieuse université d'Harvard, elle a travaillé auprès du cabinet de conseil McKinsey, de la Banque mondiale, mais aussi de l'administration Clinton. Alors, qui mieux qu'elle donc pour permettre à Facebook de poursuivre son développement ? Mark Zuckerberg ne s'y trompe pas lorsqu'il la rencontre, un peu par hasard lors d'une soirée, et il propulse quelques mois plus tard celle qui était considérée comme une étoile montante du monde de la tech à la tête des opérations de Facebook.
D'accord, et que retiendra-t-on du passage de Sheryl Sandberg au sein de Facebook ?
Alors, c'est sûr que du côté de Facebook, on retiendra forcément du positif. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a explosé, passant de 150 millions de dollars en 2008 à plusieurs centaines de milliards de dollars par an sous la houlette de Sheryl Sandberg. Pour rappel, l'an dernier, la société Facebook, c'était un chiffre d'affaires de 115 milliards de dollars. Mais Sheryl Sandberg, si elle est considérée aujourd'hui comme la femme la plus puissante de la tech, c'est aussi un nom associé aux différents scandales liés à Facebook, notamment à cause de l'affaire Cambridge Analytica qui a vu les données de millions de profils Facebook d'Américains récupérées par un prestataire de campagne de Donald Trump en 2018, mais aussi les questions de l'ingérence politique de la Russie dans les élections présidentielles en 2016. On lui doit aussi tout ce qui est lié à la publicité ciblée sur le réseau social, une pratique qui a soulevé beaucoup de questions en termes de respect des données personnelles des utilisateurs.
Et donc Léo, que va devenir Sheryl Sandberg à partir de maintenant ?
Alors, pour commencer, Sheryl Sandberg démissionne, elle quittera ses fonctions vers la fin de l'année, mais elle sera toujours membre du conseil d'administration de Facebook. Elle devrait être remplacée à son poste de numéro 2 de Meta par Javier Olivan, qui lui est chez Facebook depuis 2007. Elle souhaite désormais davantage consacrer du temps à son association Lean In, dédiée à encourager le leadership des femmes dans les entreprises et notamment dans le monde de la tech. Elle avait déjà écrit un livre à ce sujet, publié en 2013, et lui aussi, il avait fait polémique. Elle y expliquait son combat, bien évidemment, en faveur de l'égalité homme-femme au sein des entreprises, mais elle déclarait en revanche que si les femmes n'avaient pas accès aux mêmes postes que les hommes, eh bien, elles devaient avant tout s'en prendre à elles-mêmes.
Merci Léo de nous avoir présenté Sheryl Sandberg, figure du monde de la tech.
Pour marquer les commémorations du 78e anniversaire du débarquement en Normandie, je vous propose ce retour sur le jour J du 6 juin 1944. Un extrait de nos archives, une interview faite avec Maurice Patureau. C'est un Mauricien qui a effectué des missions de bombardement pour la RAF contre les objectifs ennemis durant la Seconde Guerre mondiale. Il a aussi écrit ce livre sur les agents secrets mauriciens qui circulaient en France entre 1940 et 1945.
La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France.
Et c'est orageux qui gronde, que ce signe dans le ciel, est-ce la fin de notre monde, l'apocalypse qui nous
Voilà donc l'allocution du général de Gaulle annonçant le débarquement le 6 juin 1944, suivi du chant des commandos SAS. Un retour donc sur le jour J, 6 juin 1944. Maurice Patureau, capitaine pendant la guerre, il a participé aux opérations de Libye comme navigateur et puis avec le groupe Lorraine. En Angleterre, il a effectué des missions de bombardement contre les Allemands. Il a été fait compagnon de la libération par le général de Gaulle. Il a aussi écrit ce livre, Agent secret mauricien, en France de 1940 à 1945. Que faisait-il le 6 juin 1944 ? Écoutez.
J'étais dans l'aviation parce que j'étais pilote civil avant la guerre, quoique avec peu d'expérience. J'ai fait mon service militaire et puis nous avons été démobilisés avec l'arrêt des hostilités en France. Puis je suis parti pour l'Angleterre, où je suis rentré détaché dans la Royal Air Force au squadron, à l'escadrille 342, groupe Lorraine. Et là, j'ai fait la guerre comme navigateur dans des bombardiers légers, principalement des Blenheim et puis des Boston.
Parlez-nous du 6 juin 1944. Où étiez-vous et que faisiez-vous ce jour-là?
Notre mission ce jour-là, c'était de répandre un rideau de fumée devant une des plages de débarquement. Malheureusement, il y a eu un choix. Nous avions que 12 avions à fournir et je n'étais pas dans ces 12. Je suis donc resté en spectateur alors que mes condisciples faisaient le rideau de fumée qui a eu un grand succès du reste. Nous avons perdu un équipage, mais les 11 autres sont rentrés à Dem.
Monsieur Patureau, si nous parlions maintenant de votre livre « Les agents secrets mauriciens en France, 40-45 », quel était tout d'abord le but d'écrire ce livre ?
Il y avait trois objectifs principaux. Ne pas laisser tomber dans l'oubli les actions d'éclat d'un certain nombre de Mauriciens pendant la guerre 39-45. Et je pensais que le 50e anniversaire de la fin de cette guerre était une bonne occasion pour éditer ce mémorial. Ça, c'était un des objectifs. Le deuxième, c'était de faire comprendre que via les services secrets, un très petit nombre d'agents pouvaient opérer des destructions considérables avec des résultats tactiques extrêmement importants. Finalement, il fallait retracer sommairement les principaux réseaux ayant été sous le commandement de Mauriciens pendant la période 41-45. Et dans le livre, il existe une carte où on voit le nombre de réseaux mauriciens qui n'est pas négligeable comparé au nombre de réseaux total érigés en France.
Parlons un peu de ces agents secrets mauriciens travaillant pour la France. Quelles ont été un peu leurs contributions à la libération et là, je pense aux missions effectuées, oui. Car il ne faut pas oublier la contribution de ces mauriciennes qui étaient elles aussi des agents de la France.
Et nous avons eu 14 principaux agents, ce qui est un nombre très fort comparé à la population de Maurice. Hein.
Oui.
Mais nous étions bien, au départ même, nous avions une meilleure chance parce qu'on parlait bien et le français et l'anglais. Ce qui nous donnait un avantage sur beaucoup d'autres agents qui opéraient en France,
oui.
Venant de l'Angleterre. Et alors, dans ces 14, je vous cite les noms de ceux qui ont le plus marqué notre épopée. Il y a Anterne d'abord. Lui, c'était le grand conseiller et coordonnateur. Et puis, il y avait Bessac. C'était le grand baroudeur, en équipe avec sa sœur, du reste.
Oui.
Et puis Duclos, qui était le Benjamin. Alix Tunienville, l'indestructible, qui a été dans plusieurs camps de concentration et puis en est revenu. Jean et Maurice Larcher, les deux durs. Mingard, le chevalier. Les trois frères mères, la terreur des Allemands. Delaroche, la liaison avec les Américains. Clarin, le martyr des camps de concentration. Voilà les noms des principaux qui ont été SOE pendant la guerre, c'est-à-dire oui. Agents secrets, et qui se sont excellemment bien conduits. Je dois mentionner également que nous avions des Mauriciens dans la SAS, Special Air Services, et des parachutistes.
Oui.
Je crois qu'on vous a déjà parlé des actions de Raymond Rowe, auxquelles oui. Il faut ajouter ceux de Hyacinthe Vier, et de Yves Quentin, à peu près en résumé très succinct, ce qu'on essaye de développer dans le livre pour que la mémoire de ces officiers reste parmi les générations à venir.
Oui, je me souviens, l'année dernière, quand j'ai interviewé Sir Maurice Rowe, il avait réitéré le fait que Raymond Rowe avait libéré Copenhague et Philippe Planel avait libéré Rangoon. Donc, on peut dire que les Mauriciens ont pris une part assez active pendant la guerre, que ce soit en Europe ou en Asie Pacifique, n'est-ce pas?
Très, très, très active. Vous savez, les maires, par exemple, les trois frères maires, ils étaient en charge de quelque chose comme 25 000 FFI à un moment donné. Mingard lui-même a eu 8 ou 10 000 personnes sous son commandement. Donc, ce n'était pas négligeable. Et puis, nous avons eu les deux filles, Alix Dunienville et Mademoiselle Bessac, qui se sont conduites d'une manière extraordinaire.
Et Monsieur Patureau, quel serait le message que vous aimeriez adresser aux jeunes d'aujourd'hui, à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent?
Il y a un texte de Brossolette, qui était un agent secret lui-même, hein, et qui a écrit pendant la guerre. Et j'aurais voulu, en guise de conclusion, peut-être vous lire ce court texte. Hein. En étudiant ces hommes, je cherchais à comprendre en quoi ils se distinguaient de leurs compatriotes. En vérité, ils n'étaient pas tellement différents, mais étaient plus résolus et plus tenaces. La libération de leur pays était devenue plus qu'une vocation, c'était un devoir. La gloire est comme ces navires où l'on ne meurt pas seulement à ciel ouvert, mais aussi dans l'obscurité pathétique des cales. C'est ainsi que luttent et que meurent les hommes du combat souterrain de la France. Saluez-les, Français, ce sont les soutiens de la gloire.
Monsieur Patureau, je vous remercie pour votre contribution à cette occasion, en cette année du 50e anniversaire de la victoire des Alliés contre le nazisme. Merci beaucoup.
Ça a été un plaisir pour moi. Merci aussi. Au revoir.
Et nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Très belle fin de journée. À très bientôt.
Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.